Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, l'émission politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Nous recevons aujourd'hui Bernard Borgiali, candidat sur la liste France Insoumise pour les élections européennes le 26 mai. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Ceux qui vous aiment prendront-ils le train ? Candidat aux européennes, en 10e position sur la liste des Insoumis, votre élection est donc possible, mais pas certaine. Elle va se jouer dans la dernière ligne droite, pardonnez-moi l'expression, d'une campagne jusqu'ici un peu poussive. Si votre rame, avec la jeune Varoise Manon Aubry comme locomotive et Jean-Luc Mélenchon en queue de convoi, prend de l'élan, vous décrocherez à 47 ans et à Bruxelles votre premier mandat. Mais si la mécanique électorale déraille, vous retrouverez en juin la voie des intercités et autres TER. Car votre métier depuis 20 ans est de conduire des trains. Ce qui fait de vous un candidat singulier, comme l'est votre biographie qui tranche avec celle de la plupart de nos élus et postulants au mandat. Issu d'une famille modeste, à Saint-Étienne, vous quittez l'école à 16 ans. Direction l'usine. Durant 8 ans, vous êtes ouvrier fraiseur chez des sous-traitants de grandes boîtes de la métallurgie. Puis, vous embauchez à la SNCF. Premier effet de votre aiguillage dans le service public, votre salaire s'effondre. Deuxième effet, votre vie prend un nouveau départ. Vous goûtez aux joies du syndicalisme, d'abord à la CFDT, puis chez Sudrail. Grâce à la formation permanente, vous intégrez l'école des conducteurs de ligne. Et en 2001, pour vos 30 ans, vous pilotez sans tuteur votre première locomotive. Mais vous prenez encore de la vitesse en obtenant l'équivalent du bac, puis en décrochant à 40 ans une licence de droit. La même année, en 2012, vous devenez secrétaire fédéral de Sudrail, l'un des dirigeants nationaux du syndicat. Avant de reprendre, 3 ans plus tard, votre poste de cheminot et d'être muté à Marseille en 2016. Et la politique dans tout ça ? Attirée par les Verts, le NPA, vous franchissez le pas seulement en 2017 en rejoignant les Insoumis. Ce qui vous conduit aussitôt à votre première candidature aux législatives à Marseille, face à la sortante et très droitière Valérie Boyer. Un premier tour de chauffe avec 12% des voix. La question qui se pose, c'est est-ce que ce coup-ci sera le bon ? Sera-t-il le bon ? Et au Parlement, vous promettez de faire entendre la voix des petites gens, les ouvriers, les employés. Sans surprise, après avoir mené à Marseille la dernière bataille du rail, vous voulez suivre le dossier des transports. Mais pas que. Vous vous engagez à combattre à Bruxelles la souffrance animale. Bref, à croquer à pleines dents, celle d'un végétarien, votre futur mandat. À condition, bien entendu, de ne pas rester à quai.
Bernard Borgiali, une réaction à ce portrait à la sauce Ravi ?
Bah merci. D'abord, je trouve qu'il est très fidèle à ce que je suis. Vous avez effectivement fait un lien avec le train. Et oui, il y a une inertie dans le train. Quand on est conducteur de train, on sait qu'il faut mettre en route doucement, laisser se mettre en place l'inertie et les masses. Et puis, une fois qu'il est lancé, souvent, il est inarrêtable.
Bernard Borgiali, on va parler évidemment de votre campagne pour les européennes, mais d'abord il y a l'intervention du président de la République. Le chef de l'État a livré ses réponses au grand débat pour tenter d'éteindre la crise des gilets jaunes et un petit peu relancer son quinquennat à un mois des européennes. Comment avez-vous perçu ces annonces et sa volonté, je cite, de regagner les cœurs et de rebâtir un projet humain ? Ce sont ses expressions.
Bien écoutez, moi je suis comme beaucoup de Français qui ont écouté hier, particulièrement les gilets jaunes. Vraiment très déçu d'abord parce qu'il y a eu un grand débat qui finalement aboutit à une sortie par une porte de souris. La réalité c'est que une de ses premières phrases c'est de dire qu'il ne changeait pas de cap et qu'il était plutôt très fier des 2 premières années écoulées. Et c'est exactement ce pourquoi les gens sont descendus dans la rue et ont dit que le mandat d'Emmanuel Macron n'était pas à la hauteur des espérances de la population. Donc après le reste c'est un jeu de communication, le même qui a coûté 12 millions d'euros ces dernières semaines de grand débat qui a été d'ailleurs un échec. Bon voilà, moi je sors en restant évidemment plus que sur ma faim et en se disant que Emmanuel Macron est venu valider ce qu'il avait validé au départ lors de la présidentielle, c'est-à-dire un programme libéral dans lequel il n'y a pas d'espace ni pour les gilets jaunes, qu'il n'a pas cité d'ailleurs, ni pour l'augmentation des salaires qui est pour nous indispensable.
C'est pas tout à fait vrai, il a dit la crise des gilets jaunes m'a transformé.
En tout cas, je sais qu'elle a plus transformé les gilets jaunes, et particulièrement ceux qui ont été mutilés, agressés, et qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations dramatiques, qu'elle a pu le changer lui, parce que si elle l'avait vraiment changé, peut-être aurait-il entendu leurs revendications.
Alors, des revendications, il y en a eu, des réponses également, puisqu'il y a une réévaluation des pensions de retraite réindexées sur l'inflation, ça c'est plutôt une bonne chose, non ?
Disons que c'est un petit pas en arrière.
En même temps, c'est lui qui les avait dévaluées. Hein.
Voilà, exactement. Mais en gros, voilà, c'est tout à fait le modèle de politique qui est présenté par Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est l'incurie, et puis finalement, quand je vois que ça va trop loin et puis que les gens se plaignent, je reviens sur une mesure. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une petite mesure. C'est bien pour les retraités qui soient réindexés sur le coût de la vie pour les pensions de moins de 2000 euros. Néanmoins, on a quand même le problème de la CSG et le fait qu'il faut remettre à plat la fiscalité en France.
Alors, il y a une baisse de 5 milliards d'impôts aussi sur le revenu annoncé, en visant, semble-t-il, les classes moyennes.
En vérité, c'est que c'est les classes moyennes et en gros l'ensemble des Français qui vont les payer. D'abord, par l'impôt le plus injuste, la TVA, et puis évidemment, par la baisse de la dépense publique, c'est ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une grosse perte dans les services publics. Donc finalement, c'est les gens qui vont payer, encore une fois, il n'y a pas de redistribution qui a été enclenchée, notamment sur ceux qui sont les plus aisés en France.
Alors, une des revendications des Gilets jaunes, c'était ce fameux référendum d'initiative sociale. Il va y en avoir un de référendum, ce ne sera pas celui-là, mais ce sera un référendum populaire, plus facile. Et il a également indiqué pas de retour sur l'ISF. Alors, le référendum et l'ISF.
Alors, il a parlé d'un référendum d'initiative partagée qui serait plus accessible avec un nombre de pétitionnaires, je crois, de 1 million de personnes. En gros, on est très loin de la demande du RIC. Demande que nous, la France Insoumise, avons déposé comme projet de loi à l'Assemblée nationale lorsque nous avions notre niche parlementaire et qui n'a même pas été discutée par les parlementaires de La République En Marche. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une réelle volonté d'aller dans cette revendication de remettre le citoyen au cœur de la démocratie. Donc c'est selon moi un enfumage. Et puis sur l'ISF, ça veut dire ce qu'il a dit au début, on ne change pas de cap, ma politique est la bonne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1% des plus riches sont ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui de la fiscalité, 0,01% ont pris un chèque de 1 million d'euros, donc tout va bien aujourd'hui pour les riches et les grands patrons.
D'accord. Alors, remettre l'humain au cœur du projet, ça veut dire qu'il y a plus de proximité, notamment au niveau des services rendus à la population, et l'abandon du projet de suppression des 120 000 postes de fonctionnaires. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une annonce qui est quand même... Il en faisait une des annonces de son programme présidentiel.
Alors, moi, j'ai pas entendu l'abandon. J'ai entendu qu'il y avait une évaluation, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une série d'évaluations. J'ai entendu aussi qu'il allait supprimer des organismes inutiles, sans pouvoir vraiment cibler qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont réellement. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau dans un grand flou et que les 5 milliards, si on revient sur les 5 milliards qui doivent être affectés à la baisse d'impôts, ils vont devoir être trouvés dans la poche, précisément, de la dépense publique. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un abandon, c'est simplement une réévaluation. Et je pense qu'il va mettre la Cour des comptes là-dessus, qui, après les élections, va nous refixer un cap de fiscalité qui, de nouveau, va être difficile à vivre.
Alors vous qui êtes un grand ami du tofu, puisque Michel disait que vous étiez devenu végétarien, l'absence de grandes annonces sur l'écologie.
Ben voilà, on y est en fait. Hein. Enfin, nous, moi là où je me suis vraiment retrouvé dans la France insoumise, c'est d'abord qu'au travers du programme de l'Avenir en commun, nous avons complètement intégré ce principe de modification climatique de notre environnement et de l'écologie. Malheureusement, on voit que tous ceux qui ont essayé de se verdir ces dernières années et là, ces dernières semaines, finalement, ils sont rattrapés par leur système politique libéral qui ne tient pas compte et de la souffrance animale et du problème du productivisme, de la malbouffe et de tout ce qu'il y a derrière. Bon, la France insoumise, aujourd'hui, on est très à l'aise sur ce sujet. On regrette évidemment que hier, le président ait fait complètement l'impasse là-dessus, quoi.
Michel ?
Alors, c'est quand même assez extraordinaire ce à quoi on assiste, c'est-à-dire un président, après un mouvement social aussi long, aussi puissant, atypique, hein, presque insurrectionnel, celui des Gilets jaunes, qui est finalement très sûr de lui, ne renonce à rien, annonce même que les Français devront travailler davantage, même s'il garantit la retraite à 62 ans, il annonce l'allongement de la durée des cotisations, ce qui va avoir pour conséquence que les gens devront travailler plus longtemps. Ce mouvement social des Gilets jaunes s'est à nouveau, pourtant atypique, fracassé face à l'inflexibilité du pouvoir. Un nouvel échec social, sur le plan du social.
Je pense que Emmanuel Macron a des modèles. Ces modèles, on les connaît. C'est Reagan, c'est Thatcher. C'est, en gros, il ne peut pas y avoir de modification sans qu'il y ait de la casse sociale. Donc je pense qu'il est complètement inscrit dans cette dynamique-là. Et il est venu pour rappeler qu'il avait un programme néolibéral pour se mettre en conformité aujourd'hui avec la Commission européenne et particulièrement la politique allemande. Et que donc, du coup, les revendications qui étaient portées, il y répondait à la marge. Et que pour le reste, il fallait travailler plus. C'est aussi une mauvaise appréciation, puisque je pense que les chiffres qui sont donnés aujourd'hui par Eurostat et par l'OCDE, montre que la France est tout à fait bien placée dans le top 3, voire dans le top 5 européen pour le temps de travail. Elle est très bien placée, voire mieux placée que la plupart de nos partenaires européens dans la productivité, et que donc ne pas tenir compte de ça, c'est d'abord ne pas tenir compte de la réalité du travail, et c'est peut-être ne pas avoir compris ce qu'était le travail en réalité.
Il y a quand même des annonces qui sont plutôt positives, les 1000 euros pour une carrière complète au niveau des retraites, c'est pas mal, non ?
Bien, disons que il va falloir voir ce qu'il y a derrière, parce que la réalité, c'est que quand il dit ça, on ne va pas au bout de ce qui aujourd'hui est en cours comme projet de loi sur les retraites, c'est-à-dire la retraite à points. Donc, qu'est-ce que c'est réellement la retraite à points ? Comment vont souffrir les pensions par rapport à ça ? Quelles seront les inégalités entre les métiers pénibles et où sera indexée la pénibilité ? Et enfin, quelle va être la réversion pour les veuves et les veufs ? Parce qu'en réalité, si derrière, il y a une remise en cause de la réversion, si on a un problème de retour sur la pénibilité, s'il y a un effacement total de tout ce qui touche aux régimes spéciaux de retraite, les 1000 euros, même si on peut se dire que c'est un seuil minimum obligatoire pour ne pas être en dessous du seuil de pauvreté, encore que, serait finalement pas un si grand pas par rapport à ce que tous les autres vont devoir payer, parce qu'on le sait, la retraite à points, malheureusement, va aller vers une baisse assez généralisée des pensions.
Alors, remettre l'humain au cœur du projet, c'est aussi des classes scolaires beaucoup moins chargées, on parle de 24-25 élèves par classe, c'est aussi des pensions alimentaires pour les femmes seules qui seront désormais garanties. Ça, ça trouve grâce à vos yeux, non ?
Bien, disons que moi, ce que j'ai envie de dire, je vais venir quand même sur l'école, parce que nous, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui se retrouvent pris dans le cursus scolaire avec la nouvelle réforme du bac et pour accéder à l'université, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se retrouvent d'abord à faire des vœux et maintenant à payer, notamment les universités qui doivent gérer un certain nombre de dossiers. C'est-à-dire que ça peut aller de 37 à 150 euros. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'on va dédoubler des classes et c'est plutôt très bien. Nous, on est favorable à tout ce qui va permettre, et notamment dans les quartiers populaires et dans les zones où c'est le plus défavorisé, de donner plus de moyens. Mais alors, donnons les moyens. Ne déshabillons pas d'un côté pour donner à l'autre. Ça veut dire qu'il faut un plan Marshall de l'éducation en France, et c'est pas ce que j'ai entendu hier. Et maintenant, pour venir sur les femmes célibataires, ou en tout cas toutes celles, parce que c'est principalement des femmes qui n'arrivent pas à recouvrir la pension alimentaire. Très bien qu'on donne aux allocations familiales la possibilité d'avoir la force publique pour recouvrir. C'est une bonne chose. Néanmoins, il faut quand même savoir aujourd'hui que par rapport à cela, le droit pénal, les pressions qui sont mises sur ceux qui ne payent pas sont réelles. Il y a un droit qui existe. Bon. Demain, peut-être les allocations familiales pourront intervenir plus facilement. Tant mieux si ça peut faciliter la vie de certaines situations. Je pense que c'est quand même pas aujourd'hui le problème majeur.
Michel Guéraud.
Alors, dans un mois tout juste, il va y avoir le tour unique des élections européennes. Vous aviez promis de faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Et il n'est pas exclu que le parti du président arrive en tête de ces élections. Alors pourquoi ?
Absolument. C'est en tout cas, nous, notre objectif, c'est d'en faire un référendum. Alors évidemment, ce n'est pas qu'un référendum, mais c'est qu'en réalité, les gens qui vont devoir se positionner demain sur ce qu'est l'Union européenne et surtout le bilan de cette Union européenne, ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, c'est-à-dire malheureusement un transfert vers l'extrême droite sur la partie est de l'Europe, avec des réponses qui ne sont pas à la hauteur sur le plan de l'harmonisation sociale et fiscale, fait que aujourd'hui Emmanuel Macron, en France, est tout à fait représentant de cette Europe que les peuples rejettent en général. Donc, ce qu'on dit à la population demain qui va se retrouver à l'élection le 26 mai prochain, si vous votez la France insoumise, vous allez lancer un signal fort à Emmanuel Macron et à l'Union européenne et à cette politique de la Commission.
Comment faire pour défendre une vision ? Comment vous allez faire pour défendre votre vision de l'Europe alors que vous fondez votre élection, votre campagne, pardon, sur un référendum anti-Macron ? C'est pas antinomique, non ?
C'est pas du tout antinomique. On ne fonde pas notre campagne sur un référendum anti-Macron, c'est-à-dire qu'on est à l'aise sur l'ensemble des thématiques de l'Union européenne et sur la manière dont on veut la transformer, avec notamment maintenant le peuple. Par contre, ce qu'on dit pour de nombreux de nos concitoyens et de nos concitoyennes, c'est qu'ils sont aujourd'hui dans une situation critique et que pour beaucoup, aujourd'hui, l'évocation même de l'Union européenne, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Et que donc, pour stopper cette Union européenne, pour stopper cette commission qui est antidémocratique, il va falloir aussi stopper Emmanuel Macron. C'est donc, selon nous, aussi un référendum à Emmanuel Macron. Après, évidemment, on est prêt à venir sur l'ensemble des thématiques. C'est d'ailleurs ce qu'on fait.
Alors, on va venir un peu sur le fond hein, de vos propositions, mais peut-être d'abord la fameuse question du plan A, du plan B, du Frexit, dans un moment très particulier où un Brexit, celui de l'Angleterre, essaye laborieusement de se mettre en place.
Eh bien,
donc,
écoutez, pardon.
Transformer l'Europe ou la quitter ?
Transformer. Vous l'aurez entendu. À la France insoumise, on ne parle pas de Frexit. C'est pas notre matière à nous. Notre matière à nous, c'est créer des alliances avec maintenant le peuple et c'est se mettre en opposition aux traités qui nous empêchent de pouvoir mener une politique raisonnable, raisonnée et surtout une politique offensive en termes climatiques. Donc elle est là, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, j'entends l'ensemble des formations politiques, en commençant par La République En Marche d'ailleurs, avec Madame Loiseau qui mène cette campagne. La réalité, c'est que lorsque je les entends, ils ont plein d'idées, ils ont plein de propositions, mais ça rentre pas dans le cadre des traités actuels. La plupart de tout ce qui existe dans les cadres des traités actuels est devenu un étau tel qu'il faut l'unanimité de l'ensemble des pays. Je pourrais prendre par l'exemple des travailleurs détachés. La réalité, c'est que quand on regarde ce qui a été fait sur les travailleurs détachés, c'est pas une remise en cause de cette directive qui aujourd'hui est dramatique pour les gens qui sont détachés et dramatique pour ceux qui se trouvent autour avec le dumping social que ça organise. Donc la réalité, c'est de dire que oui, il y a des traités dont il faudra sortir. Oui, il y a des éléments dont on devra désobéir si on veut appliquer notre programme L'Avenir en commun. Donc être demain au Parlement européen, c'est continuer à construire une alliance avec l'ensemble des peuples qui ont un intérêt à sortir de ce modèle européen.
Cette alliance, elle peut englober par exemple les populistes italiens s'ils sont d'accord avec vous sur certains thèmes, notamment les travailleurs détachés ?
Cette alliance, elle englobera pas les populistes italiens, elle englobera tous ceux qui portent les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire qu'ils sont antiracistes.
Enfin, si un projet de loi, par exemple, sur les détacheurs, sur les travailleurs détachés, et que les partis italiens souhaitent le voter, vous voterez avec eux.
Alors ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que à partir du moment où on va se retrouver dans la capacité à pouvoir voter sur quelque chose qui nous semble important, mais c'est ce qui existe aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on n'est pas dogmatique. À partir du moment où nous, on va vouloir agir sur la directive des travailleurs détachés, mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus, hein, parce que jusque-là, quand on regarde ce qu'a fait le Front National dans le passé et la manière dont se présentent les populistes et notamment l'extrême droite, par exemple en Hongrie, la réalité, c'est que il y a personne qui est pour remettre en cause cette directive à part la France insoumise réellement, quoi. Donc j'ai pas de problème là-dessus, mais évidemment, à partir du moment où nous, on va se mettre en situation de voter pour l'intérêt de la population, ceux qui voteront dans le même intérêt, voilà, s'il voit que le ciel est bleu comme nous, on va
alors,
pas dire qu'il est d'une autre couleur.
Pas de Frexit, mais par contre favorable à ce que la France reprenne une part de sa souveraineté qu'elle a concédée à l'Union européenne. Sur quel domaine à peu près ?
Bien, disons que
ce qui vous paraît c'est plus important. Hein.
Bah, nous, enfin, vraiment ce qu'on a fixé de plus important dans ce qu'on pourrait mettre en place de souveraineté qu'on appelle souveraineté populaire, c'est de pouvoir un peu plus maîtriser les flux dans ce qui est nommé le libre-échange par rapport au climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'était un grand manque du discours d'Emmanuel Macron hier, aujourd'hui on a un problème, on est au pied du mur sur le plan climatique et environnemental. Et pendant le même temps, on a des gouvernements, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un référendum, qui valide le CETA, le TAFTA, le JEFTA, etc. Des accords internationaux qui sont terribles. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en termes de souveraineté populaire, aujourd'hui, le Parlement, pour commencer, et ensuite la population, a son mot à dire sur la manière dont on organise ce grand déménagement du monde. Donc c'est en cela que la France, elle doit reprendre sa souveraineté et pouvoir imposer qu'il y ait aux frontières de la France, et on l'espère demain, aux frontières de l'Europe, un arrêt de ce grand déménagement du monde et finalement revenir à une proximité et une capacité à pouvoir produire plus près des zones où il y a une consommation.
Dernière question sur ce registre du Frexit, du plan A, du plan B. Je cite Hamon pour vous faire réagir, qui était interrogé sur ce qu'il distinguait de la France insoumise par Libération il y a deux jours. Il dit « Je ne veux laisser planer aucun doute sur l'idée absurde que nous pourrions répondre à la crise européenne par un retour en arrière. Créer un rapport de force puissant, oui. Mener une guérilla au Parlement européen, oui. Désobéir aux règles absurdes de l'austérité, oui. Mais s'engager dans un processus incontrôlé vers une sortie, non. »
Mais c'est... Alors, moi, je pense qu'il feint de ne pas comprendre. Mais en même temps, aujourd'hui, Benoît Hamon, il est dans une posture un peu difficile. C'est-à-dire qu'il est un petit peu, d'abord, isolé, et il essaye de revendiquer le fait d'être dans à la fois une position offensive sur les traités, sauf qu'en réalité, si vous n'avez pas une méthode, il n'y a rien qui se produit. On l'a vu pour la Grèce, on l'a vu pour l'Angleterre. Nous, ce qu'on dit la France insoumise aujourd'hui, c'est que le plan A, c'est une méthode. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Le plan A, ça permet d'abord, de pouvoir fixer un cap de ce que l'on souhaite. En cela, la souveraineté populaire est importante et les alliances que nous créons avec Podemos, avec le Bloco et avec un certain nombre de partenaires que nous allons étendre dans l'avenir est important. C'est ça qu'il faut aller chercher. Donc ça, le plan A est une méthode. Le plan B, c'est un moyen de dire que si à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation telle qu'on ne peut pas mettre en application des politiques qui permettent de répondre à l'urgence climatique, qui permettent de répondre à l'urgence sociale et fiscale, et qu'on continue, de toute façon, cette Europe, elle ne répond plus au peuple. Elle va mourir d'elle-même. Donc, à un moment ou à un autre, on a un plan B qui permet de mettre un frein à cela. Mais nous ne le mettrons pas tout seul. D'ici là, nous aurons continué à construire des alliances qui permettront de créer une pression suffisante. C'est ça que feint de ne pas comprendre Benoît Hamon. C'est pas une position de tordre le bras aux autres, c'est au contraire une position d'aller chercher les populations dans l'intérêt qu'elles ont, et particulièrement sur la règle verte et l'aspect climatique.
Alors sur quelques dossiers peut-être que vous allez pouvoir, si vous êtes élu, prendre en main au Parlement européen, prenons celui des transports que vous connaissez bien. On peut agir sur ce dossier-là, à cette échelle-là, européenne, il faut agir à cette échelle-là, et pourquoi faire ?
Alors, aujourd'hui, on est quand même dans une position un peu tardive pour pouvoir agir, parce que depuis 1991, on a quatre paquets ferroviaires qui sont un ensemble de directives et de règlements qui se sont imposés aujourd'hui aussi par la servilité et finalement le zèle des gouvernements successifs à la France, avec demain un passage en société anonyme de la SNCF au 1er janvier 2020. Donc, je crois qu'il faut être clair pour nos auditeurs. Les parlementaires européens qui vont être demain au Parlement ne vont pas changer radicalement la donne. On est dans une construction politique qui doit nous amener au pouvoir. C'est notre but. Le but qu'on s'est fixé à la France insoumise, c'est de pouvoir demain être au pouvoir en France pour pouvoir enfin à nouveau faire rayonner la France, en Europe particulièrement et dans le monde, et pouvoir reprendre cette part. Donc ça veut dire que dès demain, je ne vais pas pouvoir, moi, tout seul, même avec mes partenaires, mettre un frein au quatrième paquet ferroviaire qui aujourd'hui est en place. Néanmoins, on va chercher tous les moyens, dans les textes, de créer un ralentissement, voire un blocage, et surtout d'alerter les populations et d'aider de partout où il y a des luttes qui se mettent en place.
En même temps, les populations sont au courant. Vous avez perdu la bataille de l'opinion sur la réforme de la SNCF ici en France. Comment voulez-vous la gagner au niveau européen ?
Ben, disons que malheureusement, quand on l'en perd, on la perd souvent sur l'anticipation. C'est-à-dire que l'année dernière, à cette période, j'étais en grève avec mes camarades cheminots et nous étions dans une anticipation parce que, vous le voyez, ça va être en janvier 2020. Donc les gens, avant qu'ils voient les conséquences des réformes qui sont annoncées, malheureusement, il y a un temps qui se passe. Et quand les conséquences, elles arrivent, c'est quoi ? C'est fermeture des lignes ferroviaires, c'est fermeture des gares. Est-ce que les gens sont contents que les gares ferment ? Est-ce que les gens sont contents qu'il y ait une désaffection des territoires ? Non. Est-ce que les gens sont contents que bientôt on aura des trains beaucoup plus dans les heures de pointe et beaucoup moins en dehors ? Non. Donc il y a une perte de service public, mais lorsqu'ils s'en rendent compte, le mal est fait. Donc la bataille d'opinion, on l'a aussi perdue parce que je pense qu'il y a certains médias qui ont, dès le départ, essayé d'ostraciser les cheminots comme étant des feignants et des bons à rien. Et pendant ce temps, ça permettait de déplacer le focus sur ce qu'était la réalité de cette réforme.
Un mot justement sur l'application de cette réforme en PACA, avec les décisions que prend Renaud Muselier, le président de la région, concernant le rail.
Renaud Muselier, malheureusement, je ne sais pas comment est construit cet individu, mais la réalité, c'est que c'est un anti-cheminot primaire. Il fait partie de ceux qui veulent absolument montrer que la concurrence est la réponse à tout. La réalité, c'est qu'il est en train de baisser encore le budget sur les transports ferroviaires en PACA. La réalité, c'est qu'il s'est mis en conflit avec la SNCF en ayant un budget sous-évalué sur les transports ferroviaires, que ça a amené à des réponses juridiques et qu'il a été finalement obligé de signer une convention avec la SNCF. Une convention qui, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle crée des suppressions de poste et elle crée des doutes sur l'avenir ferroviaire. Et quand même, j'ajoute que les usagers dans tout ça, eux, ce qu'ils vont voir demain, c'est que s'il y a effectivement une concurrence fictive créée de toutes pièces qui va arriver, ce sera les mêmes cheminots, les mêmes rames, sur les mêmes voies. Voilà, donc c'est un enfumage là aussi.
Concrètement, vous pensez que le service risque de se dégrader avec le schéma, cette convention TER-PACA promue par la région dans les mois qui arrivent ?
Oui, parce que la réalité, le ferroviaire et le service public en général, ça ne marche pas par magie. C'est-à-dire que la chance qu'on a aujourd'hui à la SNCF ici en PACA, c'est que ce soit des cheminots qui ont des bonnes formations, qui arrivent à faire fonctionner un système. La réalité, c'est que plus vous l'appauvrissez, plus vous mettez des budgets qui sont au ras des pâquerettes et plus vous vous trouvez avec des personnels qui sont mis sous tension.
Vous voulez dire que si demain il y a une ligne italienne, par exemple, privée des Italiens, ils vont mettre des travailleurs low cost, des cheminots low cost ?
Pas forcément. En fait, en réalité, bon, on le voit aujourd'hui avec Tello, hein, parce que Tello assure. La réalité, c'est que vous allez être simplement dans un rapport de concurrence directe. Mais le problème de ce qui va s'opérer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va prendre des cheminots actuels qu'on va transférer dans ces entreprises. C'est-à-dire que le concurrent qui va venir, il va arriver sur un sillon, vous ne pouvez pas mettre deux trains, avec les cheminots d'aujourd'hui qui seront dans l'autre entreprise, dans les mêmes trains, sur les mêmes voies. Donc la réalité, c'est que vous n'arrangez pas la situation. C'est toujours un problème de financement. C'est soit vous financez raisonnablement le service public pour qu'il soit à la portée de tous, soit vous l'appauvrissez, et puis les entreprises concurrentes, elles vont venir, mais elles vont essayer de s'enrichir sur l'argent public. Elles vont chercher des rentes. Ça a toujours été la même chose. Tout ce qui a été aujourd'hui finalement ouvert à la concurrence ou libéralisé, on le voit pour l'électricité, on le voit pour le gaz, on le voit aussi pour l'eau. On est dans une situation où finalement l'usager n'est jamais le gagnant, enfin le client pour eux.
On revient au flux, on en a parlé tout à l'heure, il y a un flux qui donne la migraine à l'Union européenne, au peuple de l'Union européenne, celui de l'immigration. C'est une préoccupation pour l'ensemble de l'Union européenne, la question des flux internes qui créent des divisions et l'arrivée des nationalistes, que ce soit en Hongrie ou en Italie. Vous, votre position là-dessus ?
Alors, tout d'abord, il faut dire que dans l'Union européenne, on est 500 millions d'habitants. Et que les flux existent historiquement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que les populations, elles se déplacent d'un endroit à un autre.
1,3 million de migrants en 2016.
Oui, sur 500 millions d'habitants dans l'Union européenne, c'est extrêmement mineur. D'abord, c'est ce qu'il faut souligner. Première chose.
Enfin, c'est pas la perception. On est aujourd'hui à une époque où la perception est plus importante ou quasiment autant importante que le ressenti plus important que le fait réel.
Oui, parce qu'il y a une telle faiblesse politique dans les enjeux économiques, sociaux et environnementaux que finalement c'est devenu un moyen pour les néolibéraux, notamment comme Emmanuel Macron, d'essayer de déplacer la problématique sur l'immigration. Ça permet finalement de trouver un ennemi assez facile à cibler, et puis on ne parle pas de la réalité sociale de ce que vivent les gens. Les gens, ils ne sont pas aujourd'hui socialement dans la difficulté parce qu'il y a des migrants qui arrivent dans des situations de détresse. Première chose. Deuxième chose, moi ce que je trouve assez dramatique, c'est que la manière dont on parle de l'immigration, on ne parle plus que ce sont des humains derrière. On ne parle pas qu'il y a 34 000 morts dans la Méditerranée, et que je pense que c'est là qu'il y a la première urgence, et que l'Europe est complètement en dessous de la réponse qui devrait être la sienne en termes d'humanisme.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, avec nous aujourd'hui Bernard Bourgiali, et on parle de campagne européenne.
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a ciblé les ONG qui viennent en aide aux migrants qui traversent la Méditerranée, en particulier SOS Méditerranée, dont l'Aquarius est à quai et n'a pas pu être appareillé. ONG qui par ailleurs a été en justice suite à une action de groupuscule d'extrême droite dans ses locaux à Marseille. Un mot là-dessus, pas d'ambiguïté, parce que des fois on dit LFI, les Insoumis, c'est un nationalisme, ils ne veulent pas accueillir toute la misère du monde, il faut réguler les flux aux frontières. Quelle est votre position clairement vis-à-vis de l'immigration et de la question de ces migrants qui traversent la Méditerranée ?
Bon, d'abord, ce que je veux dire par rapport à ce que vous disiez sur le ministre Castaner, c'est que j'ai honte. J'ai honte pour mon pays d'entendre de tels propos. Voilà, de remettre en cause les ONG. Moi, je veux saluer le travail des ONG, je veux saluer leur courage, et je veux saluer le fait qu'il y a encore des gens qui, parfois au péril de leur vie, sauvent celle des autres. Donc c'est ça la première chose qu'il faut dire, les ONG ne sont pas des passeurs. Première chose. Deuxième chose, nous, ce que nous disons à la France insoumise, c'est que nous avons un devoir d'humanité. Notre devoir d'humanité, c'est que toute personne qui arrive en situation de péril doit être sauvée, mise à l'abri, et choyer. Ça, c'est la première chose. Et ce qui s'est passé avec la Corrie, c'est un scandale. C'est un scandale de la France qui a été là encore une fois, Emmanuel Macron, complètement en dessous des enjeux humains qui étaient celles de gens qui attendaient qu'on leur tende la main. J'ai entendu M. Estrosi qui a été d'une incurie. Enfin, moi, ça m'a dégoûté quand il a dit « je fermerai le port de Nice » alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Mais c'était un moyen peut-être de flatter son électorat le plus raciste. Mais en tout cas, c'était de dire « non, pas de ça chez nous ». Encore une fois, la banalité du mal, c'est un danger pour nous tous. On sait où ça conduit. Ce sont des humains, ce sont des gens à qui on doit tendre la main. Ensuite, ce que nous disons à la France insoumise, et les choses sont très claires, c'est que les gens, ils se déracinent pas de chez eux pour rien. Que ce soit pour raisons économiques ou parce qu'ils sont face à des conflits ou à la torture, les gens, ils se déracinent de leur famille, de leur terre, de leur territoire, parce qu'ils souffrent. Et c'est donc aussi, pour un pays aussi grand que la France et pour une puissance économique aussi importante que l'Europe, de réfléchir à ce problème et de voir pourquoi, où est la cause des migrations. Et on est capable d'y répondre. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas possible. On est capable d'y répondre. Donc il y a un enjeu majeur. Et puis je veux quand même le rappeler ici, c'est que si on ne répond pas, comme le fait malheureusement Emmanuel Macron, il n'y répond pas à la cause climatique, demain ce sont 250 millions de personnes dans le monde qui vont se déplacer.
Alors la cause climatique, on va y rester sur un autre domaine, un autre enjeu de cette campagne européenne, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est dans la région 20 340 exploitations, 4 fois moins que dans les années 70, c'est 37 000 emplois. L'agriculture régionale dépend en partie des aides européennes, c'est à peu près 200 millions d'euros par an. Des projets là-dessus? Une vision là-dessus?
Eh bien disons que...
Il y a la réforme de la PAC qui va venir.
Voilà, tout à fait. En fait, la PAC, on le sait, c'est aujourd'hui le plus gros budget européen qui est reversé aux États membres. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, la manière dont est distribuée la PAC et reversé l'argent de la PAC...
40% du budget européen,
c'est
énorme.
C'est ça, hein. C'est 40%, c'est le plus gros. C'est absolument problématique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lié à la taille des exploitations. Donc, si on veut développer le bio, la proximité, l'agriculture paysanne, il faut absolument sortir de ce mode de calcul sur la surface et redistribuer la PAC par rapport à l'utilité et à la proximité. C'est donc le premier combat que nous allons mener dès le 27 mai, et j'espère en faire partie, sur la manière dont il faut complètement revoir la distribution et surtout pour permettre l'installation des petits paysans et de tous ceux qui vont nous permettre d'avoir de la proximité agricole.
Vous voulez renationaliser les politiques agricoles ?
En tout cas, ce qu'on veut, c'est réutiliser correctement l'argent de la PAC de manière à ce qu'on sorte du productivisme alimentaire tel qu'il est fait aujourd'hui, qu'on sorte du calcul à la surface. Et que, parce qu'il faut quand même le comprendre, c'est que plus vous avez de surface, plus vous touchez d'argent. Et plus vous avez de surface, plus vous mécanisez pour utiliser à la fois des pesticides et une manière, je dirais, assez agressive de faire de la culture. Donc ce n'est pas une question de renationaliser, c'est une question de redistribuer ces sommes de la politique agricole commune à la petite paysannerie, à ceux qui sont dans une agriculture raisonnée.
Tout à l'heure, vous avez parlé de 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Il faut les nourrir. Il y a plus de 60 millions de Français. Il faut les nourrir également. Mmh. Est-ce qu'on peut le faire avec des petites parcelles, un petit peu de ci par là, un autre petit...
Bien sûr. Alors, bien sûr, non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. On doit le faire, d'abord, ce ne sera pas des petites parcelles, ce sera de revoir complètement notre approche d'agriculture. Et on est capable de le faire. Moi, je me réfère beaucoup à ce que fait la Confédération paysanne et à ce à quoi elle participe, c'est de sortir des pesticides et c'est d'avoir la possibilité de respecter la terre. Parce que le problème, c'est que si on ne respecte pas les cycles de la terre, si on ne respecte pas les jachères, si on ne respecte pas un certain nombre de règles, si on continue à tuer les pollinisateurs, la problématique, c'est qui on va nourrir demain. On n'en sera plus capable. Donc, la réalité, c'est de revenir à une agriculture raisonnée. C'est 400 000 emplois à la clé. C'est ça, la réalité. Il faudra de la main-d'œuvre.
Michel Guéraud.
On a parlé rapidement tout à l'heure de l'extrême droite et du poids qu'elle prend dans ce scrutin, de la montée des populismes d'extrême droite en Europe, même en Espagne où, par exemple, il y avait Podemos. On voit émerger à nouveau l'Espagne qui a connu le franquisme, des courants d'extrême droite. Pourquoi? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous qui vous définissez aussi comme populiste, d'aller sur ce registre-là et de perdre peut-être en lisibilité, notamment sur le clivage gauche-droite?
Je ne crois pas. Je crois que les gens qui suivent la France insoumise et qui lisent notre programme et qui nous écoutent savent que nous sommes leurs pires opposants. Après, que l'extrême droite, elle ait pris parfois un habit de gauche, qu'elle ait pris un habit, elle, pour le coup, extrêmement populiste, évidemment, ça peut brouiller les cartes. Je pense que c'est ce qu'avait fait Marine Le Pen pendant très longtemps, d'ailleurs, de laisser croire ou de laisser entendre aux ouvriers, aux salariés, aux employés, qu'elle était leur alliée. Et puis, finalement, quand ils se rendent compte de ce qu'est la politique de l'extrême droite, et je citais tout à l'heure la partie est de l'Europe, en réalité, ce qu'on voit, c'est que les travailleurs, ils en prennent plein la tête et que l'égalité homme-femme est mise à mal. Mais bon, ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes son opposant, mais nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut mettre fin au racisme, à l'antisémitisme.
En même temps, votre différence, elle est vraiment d'ordre vocabulaire sur un sujet comme les travailleurs détachés, par exemple. Vous avez eu des propos, en tout cas, vous avez une finalité qui est la même que celle de l'extrême droite du Rassemblement National.
Bah, écoutez, encore une fois, moi je vous le dis, l'extrême droite...
Vous le dites avec d'autres mots, mais la finalité est la même.
Mais nous, on parle...
Refermons les frontières.
Elle est peut-être la même, mais en attendant, quand il a fallu qu'on vote au Parlement européen, nous, on a voté contre. Et l'extrême droite s'est abstenue. Donc, vous voyez, il y a une différence entre les actes et les mots. Dans les actes, nous allons au bout de ce que nous décidons et de ce que nous disons. L'extrême droite parle, mais ne fait pas. Quand on dit qu'il faut arrêter et qu'il faut aller vers une harmonisation sociale et fiscale, on y est. Quand on dit qu'on veut mettre en place le RIC, l'extrême droite ne le veut pas. Quand on dit qu'il faut un référendum révocatoire, l'extrême droite ne le veut pas. Quand on dit qu'il faut sortir de cette 5e République, qui est aujourd'hui la monarchie présidentielle, l'extrême droite ne le veut pas. On est diamétralement opposé à l'extrême droite. Après que l'extrême droite joue son jeu très populiste de faire croire qu'elle est proche des ouvriers, ma foi, à ceux qui veulent y croire, ils croient. Mais nous, on a un programme qui est clair.
Alors, méfions-nous des sondages, on n'arrête pas de le dire, et malgré tout, on le regarde tous. Même avec les marges d'erreur, etc., le RN, c'est-à-dire l'héritier du FN, mène la course en tête et semble pouvoir faire un score qui serait le double du vôtre. Alors, pourquoi avoir décroché à ce point? Est-ce que ce décrochage, il est rattrapable? Et est-ce que ce n'est pas lié à quelque chose d'interne dans la proposition? Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce que vous avez traversé des périodes difficiles à la France insoumise qui expliquent ce démarrage difficile?
Alors le RN, juste pour les auditeurs, il est aujourd'hui aux alentours de 24%. La France insoumise, c'est entre 8 et 9. Hein.
Oui, c'est ça. Bon, on a un sondage Harris Interactive qui nous place à 9,5. Mais... Oui, certainement qu'il faut qu'on regarde, nous, notre stratégie, parce que il faut jamais reporter sur les autres ses propres difficultés, donc on a un devoir de se regarder en face. Je pense que la problématique qu'on a vécue avec les perquisitions et la manière dont ça a été traité médiatiquement nous a fait beaucoup de mal, alors qu'on pensait que, par rapport à ce qui s'est produit, il y a eu à avoir de la part du monde politique un soutien massif, total, et même des associations pour dire que ce qui se passait dans la 5e République par rapport aux perquisitions était quelque chose de dramatiquement grave, une judiciarisation du monde politique. Bon, ça n'a pas eu cet effet, au contraire, il y a eu une utilisation. Je pense qu'à partir de là, ça a été une baisse dans les sondages, clair. Aujourd'hui, on est dans une reconquête qui se voit assez régulière depuis quelques semaines. On reste très tranquille sur nos bases, sur nos fondements. On fait une campagne qui est sérieuse et je pense que les gens nous rendront hommage par rapport à cette campagne. Il faut qu'on arrive à bien mobiliser notre électorat qui est souvent celui qui est le plus éloigné des élections. Il faut absolument qu'on arrive à retoucher cette population.
Allez, on est à Marseille, on a un député qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui joue un rôle important dans votre formation. Il est là à la fin du convoi de la liste, oui. Symboliquement. Hein, il n'est pas en position éligible, il est quasiment le dernier, l'avant-dernier. Mais il y a des choses qui se disent, alors, y compris sur le mode du conflit. Il y a Thomas Guénolé, politologue, qui était votre responsable de l'école de formation des Insoumis, qui était sur la liste européenne et qui a claqué la porte. Alors il est suspecté de harcèlement sexuel. Et c'est pour ça que votre mouvement voulait l'inviter à se retirer de la liste. Mais en partant, en claquant la porte, il a accusé Mélenchon d'être imprévisiblement colérique et de diriger le mouvement en autocrate. C'est pas le premier à dire ça. Ce départ et la personnalité de Mélenchon qui parfois vous porte, mais parfois semble aussi vous nuire.
Écoutez, j'ai envie de dire, c'est les propos de Thomas Guénolé. Alors, vous dites, c'est pas le seul à avoir dit ça. Il est vrai que ceux qui, à un moment ou un autre, n'arrivent plus à trouver leur place dans une formation politique, je sais pas la raison réelle. Moi, j'ai été très choqué, hein, je vous le dis très franchement, par ce qu'a écrit Thomas Guénolé, puisque on s'était vu quand même peu de temps avant. Il y avait rien qui laissait paraître qu'il allait se passer une chose pareille. Donc, savoir qu'est-ce qui l'a motivé à se positionner de cette manière, de façon aussi radicale, je n'en sais rien. Je pense que peut-être que les accusations qui ont été portées contre lui par une personne physique, réelle, qui existe, qui n'est pas une personne inventée, a certainement précipité sa volonté de vouloir s'épancher comme ça dans la presse. Néanmoins, encore, je vous l'ai dit, la France insoumise, on se regarde en face. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes. On a une liste de 79 candidats. C'est vrai qu'on a à peu près 4 personnes qui ont quitté notre formation politique parce qu'elles ne s'y retrouvaient pas. C'est leur droit. On n'est pas une secte, on n'est pas un clan. Les gens, ils ont le droit d'en partir. Alors après, les critiques qui sont formulées à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi les critiques, mais il y a aussi tous ceux qui le portent. Ils nous portent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette campagne européenne, il a trouvé pleinement sa place.
Bernard Bocelli, on n'est pas un clan, c'est ce que vous venez de dire. Néanmoins, quand on lit la liste, on trouve quand même des choses un petit peu surprenantes. Aubry, qui figure sur cette liste, on voit également sa maman, qui est présente sur la liste. On voit également le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui est présent sur la liste. Si ce n'est pas du clanisme, ça y ressemble beaucoup.
Je ne crois pas. En fait, non mais j'ai entendu. Alors, évidemment, j'entends.
L'ex-épouse de Jean-Luc Mélenchon, qui est également sur la liste.
Bien sûr, mais en fait, si vous voulez, le problème, c'est que ce sont des gens... Enfin, le problème, c'est pas du tout un problème, au contraire. Le problème, c'est qu'on les fixe comme étant proches d'eux. La réalité, et Jean-Luc Mélenchon le dit très bien,
comment
ils sont
tous... Comment ça, quand on les fixe comme proches d'eux? Un gendre est un gendre, une ex-épouse est une ex-épouse, une maman est une maman,
ça n'enlève
c'est
rien.
Une réalité.
Ça n'enlève rien à leur capacité de militant. Ce sont des gens qui sont militants depuis toujours. Est-ce que pour autant, le fait qu'ils soient militants depuis toujours, qu'ils s'inscrivent finalement, comme j'ai pu m'inscrire moi-même, dans la volonté d'apparaître sur une liste de députés européens par rapport à leur parcours, je vais prendre par exemple Gabriel Amar que vous citez, parce que c'est de lui dont il s'agit, qui est son gendre. La réalité, c'est que Gabriel Amar, c'est un ancien élu, c'est un homme qui est extrêmement engagé sur la politique de l'eau.
Mais je n'en doute pas, mais en termes de message, nouvelle formation, dynamisme, le vieux parti socialiste qui a beaucoup critiqué Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, vous avez des pratiques quand même qui ressemblent beaucoup à du népotisme, à une vieille politique faite par de vieux partis.
Ben en fait, si vous voulez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis entre les mains d'un comité électoral le destin de cette liste. On ne l'a pas mise entre les mains de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, dans ce comité électoral, sur plus de 30 personnes qui ont décidé, plus de la moitié étaient tirées au sort parmi les insoumis. Et ces gens-là, ils étaient complètement libres.
Donc, c'est la faute aux coquins de sort, alors?
Non, c'est plutôt la faute au fait que ce sont très bons militants qui aujourd'hui se retrouvent à la place qui est la leur.
Et toujours dans le registre des tensions internes, alors c'est le média qui n'est pas officiellement l'organe des insoumis, mais qui est très proche avec une nouvelle crise, là, récemment, avec Lancelin, sa directrice, qui s'en va en dénonçant un putsch et qui désigne Sofia Chikirou, qui était à sa place quelque temps avant et qui est partie avec, là aussi, des motifs de conflit. Gérard Miller qui l'accusait d'avoir détourné de l'argent, enfin... On retrouve là aussi des mécanismes assez classiques dans les mouvements politiques, des tensions, et cette Sofia Chikirou est toujours conseillère en communication dans le cadre de votre campagne. C'est des choses difficiles à porter, pour vous c'est anecdotique?
Alors, il n'y a jamais rien d'anecdotique, par contre moi j'ai suivi ça de très très loin. D'abord parce que c'est pas lié à ma formation politique, première chose, ma formation politique c'est la France Insoumise, c'est pas le média. Le média c'est un média qui est tout à fait respectable, qui fait un travail que je salue d'ailleurs. Après les tensions qui existent à l'intérieur du média ou les accusations qui peuvent être portées à Sofia Chikirou, bon, ma foi, elle engage ceux qui les portent. Moi, j'ai envie de dire, réglez vos comptes, faites ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont de nature à s'expliquer très clairement entre ces personnes, voire peut-être qui prendront une tournure juridique, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je veux tenir ça loin de la campagne européenne, parce que pour moi, ça n'a pas de lien.
Alors, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, à Marseille, c'était 24,82% des suffrages, c'est beaucoup. Et pourtant, dans cette campagne, il pourrait être un moteur au niveau local, il est plutôt absent. C'est un handicap, ça?
Je crois pas qu'il soit absent. Enfin, vraiment, je crois que par rapport aux responsabilités qu'il a prises à l'Assemblée nationale, en étant président de groupe, député, il s'est investi énormément à Marseille. Alors, parfois, peut-être très discrètement. Moi, je sais que, par exemple, j'ai rencontré les camarades de Saint-Louis-Sucre qui sont en lutte. Jean-Luc Mélenchon était là. Jean-Luc Mélenchon était au Tourski. Jean-Luc Mélenchon se déplace régulièrement dans Marseille. Il a beaucoup de visites, beaucoup de rendez-vous. Il a mis en place sur Marseille une vraie dynamique politique de manière à ce qu'on ait des écrivains publics, de manière à ce que les caravanes fonctionnent. Enfin, bref. je pense que Jean-Luc Mélenchon, je me pose d'ailleurs la question de comment il arrive à gérer toutes ces choses à la fois. Je crois qu'il est totalement à la hauteur du mandat qui lui est donné.
Alors, il a lancé, là, il vient de lancer un appel pour une fédération populaire, mais alors il cite plutôt le coup suivant, parce que là, c'est trop tard. Et peut-être un mot là-dessus. Quoi qu'il arrive, quel que soit votre score, même s'il est honorable, on se dirige quand même sur ce scrutin du 26 mai pour un échec, vers un échec pour l'ensemble des forces de gauche et écologistes, avec un émiettement, une division, 6 listes au total, et a priori les marcheurs et l'extrême droite en tête. Un mot sur cette division et un mot sur cet appel de Jean-Luc Mélenchon à se fédérer.
Vous l'aurez compris, on est dans une période politique depuis la présidentielle qui ressemble plus à ce qu'était la politique avant. C'est-à-dire qu'il y a une recomposition qui est en train de se faire. Les partis traditionnels sont en train de totalement disparaître. Et donc, moi, ce que j'entends dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'est la manière dont il a été aussi visionnaire sur les Gilets jaunes, notamment dans son livre « L'ère du peuple », où il explique précisément ce qui est en train de se produire aujourd'hui en France. Quand il parle de cette fédération populaire, il ne s'adresse pas forcément à ceux des autres partis politiques, encore qu'ils ont le droit d'entendre le message. Mais c'est aujourd'hui s'adresser aux forces qui constituent la population. Et c'est quoi les forces qui constituent la population ? Ce sont les associations, ce sont toutes les ONG, ce sont toutes celles et ceux qui finalement prennent un engagement, une lutte, un combat et qui le mènent. Et donc aujourd'hui, c'est un appel à ces forces-là à venir et à réexister dans le monde politique et pas simplement en passant par la petite lorgnette ou par la petite porte. Et je crois que c'est là le message qui est passé par Jean-Luc Mélenchon.
Toute personne ne s'y trompe, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la séquence qui suit, et pour preuve, hein, donc, ouais. Y compris votre leader pose le débat à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le scrutin du 26, et dès le lendemain, on sera dans la séquence qui suit celle des élections locales, des municipales, y compris ici, avec des annonces, peut-être Martine Vassal qui va annoncer sa candidature, et déjà des enjeux forts dans notre ville aussi, Marseille. Vous y pensez ?
Alors oui, bien sûr qu'on y pense, ça fait partie des objectifs. On est une formation politique qui est en train de s'inscrire dans la durée. Donc si on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit aussi pour réussir les différentes élections. Évidemment que pour l'instant, on est tous à 100%, voire à 1000% dans l'élection européenne. C'est une élection qu'on prend au sérieux. D'ailleurs,
quel est le taux qui serait vraiment moteur pour vous, pour les municipales ?
Ça va beaucoup tenir compte de la participation. Je crois que ça va être ça qui va être intéressant.
On donne aujourd'hui 50% d'abstention.
Hein. Voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit dans des chiffres qui soient bien meilleurs. Ça voudrait dire peut-être que les gens ont plus le souci de la réalité de ce qu'est l'Europe et de la manière dont elle s'impose à eux. Donc je pense que l'enjeu de cette élection sera surtout là. Nous, notre réussite, elle sera surtout de voir où se situe Emmanuel Macron et le Front National, le Rassemblement National, parce que la réalité aujourd'hui, elle est là. C'est que si ces gens-là, ils sont très hauts, ça veut dire qu'il y a une partie de notre électorat qui ne s'est pas mobilisée. Et donc l'enjeu électoral, il est vraiment ici. Donc je ne vais pas vous donner un taux particulier, et je pense que le plus haut sera le meilleur.
Mais retrouver les électeurs de la présidentielle, c'est ça votre projet ?
Oui, on aimerait pouvoir retrouver les électeurs de la présidentielle parce qu'on veut leur expliquer, on veut leur dire, on veut les toucher, on veut leur dire quelle est l'urgence aujourd'hui de remettre les pieds dans cette Europe, parce que sinon ils vont continuer sans nous, ils vont continuer sans eux. Et on ne pourra pas toujours être dans la rue pour dénoncer ce qui se passe, il faut aussi qu'on soit de l'autre côté du mur où les choses se passent. Et c'est ça notre intérêt. Il faut que les gens le comprennent, et c'est pour ça qu'on mène une campagne extrêmement sérieuse.
À chaque élection, sa vérité, les européennes, vous avez une liste, la France insoumise. Pour les municipales qui arrivent juste après, comme le disait Michel Guéraud, là vous allez forcément élargir le socle et voir vous présenter sur une liste qui n'est peut-être pas siglée France Insoumise.
Je n'en sais rien. En fait, très honnêtement, aujourd'hui, c'est toute la stratégie qui va jouer sur les municipales, on a décidé de la mettre en place à partir du mois de juin. Ce sera le mois de juin qui va être le début, stratégiquement, à la fois d'établir notre programme. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, très clairement, c'est que la France Insoumise sera présente dans les municipales.
C'est un peu court. Sophie Camard, hein, qui est ce que vous connaissez,
bien
suppléante de Mélenchon. dit effectivement en juin, là, c'est-à-dire demain, la discussion elle va porter sur deux hypothèses, soit établir une liste LFI ou élargir avec d'autres formations politiques qui mettraient leur logo en retrait derrière une liste citoyenne. Voilà le schéma. Ça vous va, ça vous ? Vous allez être dans le coup, non ? Quoi qu'il en soit.
Dans alors, tous les
soit,
cas.
Soit élu, soit pas.
Dans étiez, tous les cas, je serai
on l'a dit, un candidat aux législatives à Marseille, oui. Donc c'est devenu votre ville.
Oui, tout à fait. C'est devenu ma ville. De toute façon, Marseille, elle vous adopte. Mais oui, dans tous les cas, je serai dans le coup. Pourquoi ? Parce que si je suis élu, évidemment, je viendrai prêter main forte à mes amis ici sur place. Et si je ne le suis pas, je prêterai aussi main forte à mes amis ici sur place dans le cadre de la campagne. Honnêtement, Sophie Camard est la plus à même pour pouvoir parler de ces questions parce que c'est elle aujourd'hui qui prend en charge ce sujet ici à Marseille, qui le gère, qui va être au cœur de la stratégie qui va être établie à Marseille. Jean-Luc Mélenchon sera certainement aussi au cœur de cette stratégie et des décisions qui seront prises. Ce qu'il a annoncé, notamment sur cette fédération populaire, je pense que ça annonce ce que j'expliquais tout à l'heure, la volonté d'aller... ratisser beaucoup plus large.
Alors en même temps, il ne divise pas Jean-Luc Mélenchon de ce qu'il dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, a priori, il dit, voilà, ma place personnelle dans cette affaire importe peu, et il dit, le défi, c'est empêcher cette vieille caste locale de perdurer moyennant des arrangements plus ou moins douteux. Ce sont ces mots. Ça vous va ?
Moi, ça me va. Ça me va parce que là où il y a une réalité aujourd'hui, on l'a vu malheureusement avec le drame du logement à Marseille, on a vu à quel point on pouvait tomber bas, on a vu ce que donnaient presque 30 années de politique de M. Gaudin et de son entourage. Et je pense que les Marseillaises et les Marseillais sont prêts à changer totalement de politique. Et l'enjeu pour la France insoumise, mais j'ai envie de dire pour toutes les forces qui partagent cette même vision, cette vision populaire, humaniste, écologique, de gauche, parce que moi j'assume ce mot de gauche, ont un intérêt majeur à répondre aux Marseillaises et aux Marseillais, et c'est pour ça qu'il faut y inclure évidemment l'ensemble des collectifs.
En même temps, là, avec votre phrase, avec votre simple intervention là, vous avez été beaucoup plus virulent que votre leader, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui a plutôt une opposition courtoise vis-à-vis de Jean-Claude Gaudin, le patron de la mairie locale.
Vous aurez compris que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est un député de la République qui a, à chaque fois qu'il parle, tout est disséqué.
C'est un député surtout des Bouches-du-Rhône.
Bien sûr, c'est un député de l'ensemble des Français. C'est un député que lorsqu'il parle, et c'est un ancien ministre, c'est un homme que, à chaque fois qu'il parle, sa parole est disséquée, écoutée, parfois détournée. Donc je pense qu'il parle avec beaucoup de mesure. Moi, j'ai ma liberté de parole, tout simplement, mais je suis totalement en phase avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Peut-être un peu plus virulent, c'est possible.
Vous êtes néo-marseillais, on l'a dit. Votre regard sur cette ville particulière et de ses enjeux économiques, sociaux, qui sont aussi au cœur du scrutin européen pour lequel vous candidatez. Que dire de cette ville et de ces quartiers populaires qui menacent de s'abstenir énormément à nouveau, plus qu'ailleurs. Vous avez en particulier, vous, arpenté ceux de l'est de Marseille, oui. Herbel, Lescourtine.
C'est une ville. C'est une ville qui finalement exacerbe l'ensemble des phénomènes, notamment les phénomènes de pauvreté. On voit malheureusement à Marseille que la pauvreté, elle y est inscrite de manière extrêmement importante. On voit qu'il y a un abandon de ces populations. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait campagne sur les quartiers Est et j'étais souvent à Herbel, Laval-Barel, les Escourtines. Et j'ai vu les difficultés auxquelles étaient exposés les gens, plus la crise de l'eau derrière qu'il y a eu à Herbel. Et je dirais globalement les crises sanitaires aujourd'hui qui existent sur le logement insalubre. Et donc la vision que j'ai de Marseille aujourd'hui, c'est que Marseille a loupé son contrat avec la population, son contrat avec les populations. C'est une ville de mixité. C'est une ville qui n'a pas trouvé le moyen politique de tendre la perche à l'ensemble des populations. Il y a un écart de salaire de 1 à 14, c'est énorme. Il y a plus de 20% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Il y a énormément de personnes qui sont à la rue. Je pense qu'aujourd'hui, les hôpitaux sud vont disparaître. C'est 300 000 habitants qui vont se retrouver sans hôpital public. Je crois que le regard que je porte sur Marseille, c'est le regard que je porte sur la politique de droite depuis trop longtemps, qui est une austérité permanente qui s'adresse à une caste, à une élite, abandonnant les autres. Et je crois que la crise du logement et ce qu'ont vécu les gens dans la rue d'Aubagne...
En même temps, la gauche a géré cette ville plus longtemps que la droite.
Certainement. Mais en attendant, moi, ce que je regarde, c'est que la droite, elle avait peut-être un moyen ces 27 dernières années de redresser le tir. Elle a fait qu'enfoncer le clou.
Et pourtant, comme aux Européennes, il y a un risque avec cette décomposition dont vous parlez tout à l'heure, recomposition, mais encore fragile du camp progressiste, écologiste, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de voir les mêmes reprendre le pouvoir dans cette ville.
Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité très claire d'arriver à trouver les moyens de pouvoir réussir à reprendre cette ville. Et moi, je pense que c'est gagnable.
L'étape des élections européennes est une étape par laquelle il faut passer. J'imagine que vous allez nous dire oui. Alors que les gens... Enfin, il y a une exaspération. Les gens trouvent que l'Europe est lointaine, à Marseille comme ailleurs, et ont envie de s'abstenir.
Bien sûr, mais c'est tout le problème et la difficulté d'une technostructure telle que l'Union européenne qui a été faite finalement pour écarter la population en lui disant « Voyez, faut pas vous en occuper parce que c'est quelque chose de lointain ». En fait, en réalité, aujourd'hui, les directives européennes, dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans le droit qui s'applique aux gens, elle est supérieure aux lois françaises. Donc en réalité, quand vous parlez d'Europe, vous parlez de ce qui s'applique à vous tous les jours, au quotidien. C'est important.
Même dans une minorité, parce que vous serez sûrement minoritaire dans ce Parlement européen, hein, vous pensez avoir des leviers pour agir, avoir des effets, y compris sur le plan régional, local.
Bien sûr. Alors nous, on a quand même aujourd'hui le meilleur député du Parlement européen. C'est en 2018, c'est Younous Omarjee, député de la France Insoumise.
Ah, il fait peur, je pensais que vous parliez de Jean-Luc Mélenchon qui fait preuve d'une grande absence à l'Union européenne.
Non, je vous parle de Younous Omarjee qui a été élu meilleur député, qui a rencontré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps Barack Obama. Voilà, c'est un homme qui intéresse aussi par son travail, par la manière dont il s'inscrit dans les sujets, et notamment les sujets écologiques. Et c'est grâce à lui... Pas que lui, évidemment, mais c'est aussi grâce à lui, parce qu'il a été moteur sur ce sujet, que la pêche électrique est désormais interdite.
Alors l'émission arrive à son terme. Juste, on parle toujours de seuil. Vous êtes, on l'a dit dans le portrait, un petit peu à la limite hein, de l'éligibilité. Il faut combien de pourcentage pour votre liste pour qu'on vous voit au Parlement européen ?
Très honnêtement, ça va dépendre du nombre de listes qui dépasseront le 4 des 5%. Néanmoins, je pense que 10-11% permettrait que moi je sois élu, mais finalement tout ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le message qu'on a à donner passe.
On vous remercie. Allez, on vous rappelle que les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. Bye.